Je vais démarrer pour revenir sur la démarche que nous avons dans cette campagne. Alors d'abord, pour dire que notre perspective, nous pour l'Europe, c'est celle d'une Europe véritablement unie et sans frontières. Voilà, nous sommes, je pense d'ailleurs, les seuls de toutes les listes qu'il y a à vouloir cette unification sans exclusive, c'est-à-dire une unification de... Bonjour, bonsoir. Il y a des super places qui vous attendent, qui attendent ceux qui arrivent plus tard. Ah bah, je vais attendre deux secondes parce que je vois qu'il y a... Bonsoir. Il y a une... Il y a une place là, peut-être s'ils veulent se mettre à côté. Ils veulent peut-être se mettre tous les deux à côté, deux places de libre à tout à côté, peut-être. Voilà, bonsoir à tous. Donc... J'ai juste commencé mon introduction, donc vous n'avez pas raté grand-chose. Vous n'avez pas raté grand-chose. Je reviens quand même pour redire ce que je disais. C'est que nous sommes voilà, pour l'unification complète de l'Europe, d'un bout à l'autre du continent, sans exclusif. On est pour mettre fin à tous ces barbelés, ces murs, hein, y compris ces drapeaux nationaux qui servent à jeter les peuples les uns contre les autres. Nous aspirons à une Europe fraternelle, organisée par les peuples. Bon, bien sûr que cette Europe-là, elle est complètement irréalisable dans le cadre de la société actuelle. On en est bien conscient. On est conscient que ça, c'est une utopie parce qu'en fait, toutes les relations actuelles, ce sont des relations de domination. Ce sont des rivalités commerciales, c'est des relations de pillage et d'exploitation. D'ailleurs, l'Europe, l'Union européenne, elle a été construite, donc il y a 60 ans, uniquement avec cette volonté de créer un marché pour les affaires des capitalistes. D'ailleurs, la première étape de l'Union européenne, ça a été la création d'un marché commun. Donc on a vraiment une Union européenne qui a été conçue par et pour la bourgeoisie, pour ses affaires, pour ses profits. Et c'est vrai, quand on en fait le bilan de notre point de vue, à nous, de travailleurs ou même quand on appartient aux classes populaires, eh bien, on se rend compte que rien n'a progressé. Ils n'ont même pas été capables de mettre en place ne serait-ce que ce SMIC européen. On n'a pas du tout avancé sur ce terrain-là. Nos droits de travailleurs, salariés, n'ont pas progressé au travers de l'Union européenne, y compris, prenez ce droit élémentaire, le droit à l'avortement pour les femmes. Eh bien, même ce droit-là, ils n'ont pas réussi à le généraliser à l'échelle de l'Europe. Alors, ils auraient très bien pu, effectivement, faire pression pour que ces progrès élémentaires soient des progrès pour tous les peuples d'Europe. Donc, nous, cette Union européenne, on n'a aucune illusion. On sait qu'elle n'est pas faite pour nous. Elle n'est pas faite pour nous. Pour autant, donc, on la dénonce. Nous, on la dénonce comme une machine de guerre qui est utilisée contre nous, effectivement, pour mettre en concurrence les travailleurs, pour que les groupes capitalistes aillent exploiter des salariés aux quatre coins d'Europe en les payant trois ou quatre fois moins qu'ici. Donc c'est à ça qu'elle sert, cette Union européenne. Donc on la rejette, mais en même temps, on ne fait pas du tout partie de ceux qui prônent le repli national. Parce que on pense que l'Union européenne, elle est au service de la classe capitaliste, mais enfin, toutes les institutions nationales, toutes les institutions internationales, c'est la même chose. La réalité, c'est qu'ils dominent toutes ces institutions, et ce sont autant d'instruments pour imposer leur politique, pour imposer leur desiderata. Donc nous, on ne fait pas partie de ceux qui prônent le repli sur ces frontières nationales, et dans cette campagne, on va prendre le contre-pied de tous ceux qui se nomment les souverainistes et qui expliquent que ce sera le bonheur si on arrive à reconstruire des murs autour de la France. Nous, ce que nous pensons, c'est que les murs n'ont jamais protégé aucun travailleur. En réalité, ces frontières, elles sont même un obstacle aux pauvres. Elles sont un obstacle pour que les plus pauvres, qui n'ont pas la chance de pouvoir vivre là où ils sont nés, finalement, ces frontières, elles les enferment. Elles les enferment dans leur prison de misère. Hein. Donc nous, on est pour que ces frontières-là, on n'est sûrement pas pour en rajouter. On n'est pas pour en rajouter. On pense que les frontières, elles ne nous protègent absolument pas de la concurrence capitaliste. Les frontières, elles ne protègent pas de la crise économique. Hein, la crise économique, si demain il y a un krach financier, c'est quand même un peu ce qui nous pend au nez, ce krach financier, il va se répandre comme une traînée de poudre à l'échelle du monde entier. Les frontières, elles ne nous protégeront pas du tout là-dessus. Et elles ne nous protègent pas de la rapacité capitaliste, hein, de la rapacité des exploiteurs qu'on a dans notre propre pays. C'est ça la réalité. Donc nous, on ne marche pas dans ce discours sur la souveraineté qui consiste à dire replions-nous sur nos frontières nationales et nous serons souverains, nous pourrons décider. Quand on est un salarié, quand on est un jeune qui doit gagner sa vie, qui doit aller vendre sa force de travail dans les usines autour, il décide de quoi ? Il décide de rien du tout. Il décide pas de son boulot, de qu'est-ce qu'on lui donne à faire, de son salaire encore moins. Il décide de rien. Il décide pas de ses horaires, il décide pas des conditions. Il décide de rien. Et quand on appartient au monde du travail, au monde des exploités, la réalité, c'est que dans cette société capitaliste, on est souverain de rien du tout. Hein, et les jeunes, je vois qu'il y a un certain nombre de jeunes, y compris quand vous faites des études, on vous explique que quelle que soit votre passion, quelles que soient vos envies, de toute façon, il faut aller dans le domaine qui recrute, dans le domaine où il y aura du boulot. Donc, vous voyez comment, y compris, on nous oriente, on nous dirige, on nous... ceux qui ont les capitaux, ceux qui détiennent effectivement, qui possèdent les entreprises, eh ben, ils tiennent notre sort entre les mains. C'est ça, la réalité. Alors, nous, on ne marche pas dans tous ces discours-là. Hein, on n'est pas souverainiste, on est du côté des travailleurs pour qu'ils se défendent. Et notre programme dans ces élections européennes, ben, il est relativement simple. C'est un programme pour les travailleurs. C'est un programme pour qu'ils fassent bloc, pour qu'ils ne se laissent pas diviser, pour qu'ils ne se laissent pas opposer les uns contre les autres. Parce qu'on cherche à nous opposer aux travailleurs allemands, aux travailleurs roumains, bulgares, mais exactement comme on nous oppose, comme on oppose aujourd'hui les CDI aux CDD, les femmes aux hommes, les jeunes aux plus anciens. C'est exactement la même logique. Donc, il faut que les travailleurs, à l'échelle de l'Europe, ils fassent bloc, et ils fassent bloc derrière leurs revendications de travailleurs, leurs revendications essentielles, essentielles, élémentaires. Et pour nous, ces revendications, elles ont été en grande partie quand même mises sur la table avec les Gilets jaunes, parce que c'est vrai que les Gilets jaunes, ils ont au moins mis sur la table la question du pouvoir d'achat et de la difficulté de pouvoir vivre de son salaire ou de sa pension de retraite. Évidemment, c'est le problème essentiel. Et nous, on veut donc présenter un programme qui permette de sauvegarder ce pouvoir d'achat de ceux qui vivent de leur travail. Et ça, pour nous, ça passe par trois objectifs essentiels. C'est d'abord une augmentation des salaires, une augmentation des pensions de retraite, le fait qu'ils soient indexés sur l'inflation. Parce que évidemment aujourd'hui l'inflation elle reprend, elle est importante, y compris l'inflation officielle, elle ne correspond pas du tout à l'augmentation des loyers qu'on observe, à l'augmentation des prix qu'on subit. Hein, c'est ça la réalité. Donc il faut effectivement revendiquer qu'il y ait l'indexation des salaires et des pensions sur les prix. Le deuxième objectif, c'est un objectif qui nous paraît d'une évidence, un emploi pour tous. Un emploi pour tous, parce que quand on n'a pas de boulot, on n'a pas de pouvoir d'achat. C'est aussi simple que ça. Donc il faut effectivement se battre pour que chacun accède à un emploi qui permette de gagner correctement sa vie. Ça veut dire qu'il faut arrêter avec toutes ces suppressions d'emplois, cette hémorragie de suppression d'emplois, y compris dans des groupes qui sont richissimes. Dernièrement, on a eu Carrefour qui a annoncé 1200 suppressions d'emplois. La Société Générale, richissime, plus de 2 milliards de bénéfices, ils suppriment des emplois. Bon, PSA, ils ferment aujourd'hui 2 usines en France. Alors, c'est des usines moyennes, c'est pas des grosses, mais c'est 2 usines. Bon, je vais pas faire la liste, mais... Il y en a, et c'est celle dont on parle, parce que combien dans localement ferme sans qu'on en parle à l'échelle nationale. Donc il faut arrêter avec ces suppressions d'emplois, ces fermetures d'usines, et puis il faut répartir le travail entre tous sans perte de salaire, parce que on n'arrivera pas à résorber les 6 millions de chômeurs si évidemment on ne crée pas des emplois massivement, si on n'allège pas la charge de travail de ceux qui ont un boulot et puis qui sont quand même de plus en plus confrontés à des cadences et à des charges de travail qui sont devenues délirantes. Hein, où on s'esquinte la santé, où on se tue au boulot, où après une journée de boulot, il n'y a plus personne parce que c'est épuisant. Hein, et ça, c'est vrai bien sûr dans l'industrie, mais enfin, il y a beaucoup, beaucoup de métiers dans le tertiaire, y compris quand on est employé, où c'est le même résultat. Donc il faut répartir le travail entre tous sans perte de salaire. Ça veut dire évidemment qu'il faut s'attaquer. Il faut prendre sur les profits, ça ne se fera pas tout seul. Ou prendre l'argent, et bien là où ils sont, sur les profits de ces grands groupes industriels et financiers, ce qu'on appelle le grand capital. Il faut prendre sur les profits. Évidemment, c'est des objectifs qu'on n'obtiendra pas sans se battre. Il faudra les arracher. Il faudra les arracher parce que ces grands groupes, on le voit, hein, ils ont de l'argent pour leurs actionnaires. Ils ont de l'argent pour leur PDG, ils ont de l'argent pour verser leur retraite chapeau et puis tout ce qui va avec. Hein, mais pour augmenter les salaires, pour embaucher, il n'y a jamais d'argent. C'est la réalité. Donc ça sera l'objet effectivement d'un combat et c'est le combat que les travailleurs doivent mener. Mais si on ne le mène pas, on ne s'en sortira pas. C'est ça la réalité. Et nous pensons qu'il y a un troisième objectif qu'il faut avoir en tête et on veut le populariser dans cette campagne. C'est l'objectif de contrôler l'argent qu'il y a dans ces grands groupes. C'est de contrôler l'argent qu'il y a dans, que ce soit dans ces groupes bancaires, industriels, commerciaux, ces réseaux de distribution, de transport, etc. C'est une idée qui a un peu circulé, c'est une autre idée qui a circulé dans le mouvement des Gilets jaunes. C'était l'idée qu'il fallait contrôler où allait l'argent de nos impôts. Qu'est-ce que l'État faisait de l'argent de nos impôts? Donc cette idée-là, elle est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Mais nous, on pense que c'est autant légitime de dire « Allons voir ce que font, mon entreprise de l'argent que je contribue à fabriquer et à créer. » Parce que toutes ces grosses boîtes, leur argent, c'est quand même le fruit de notre sueur, de notre travail quotidien. Hein, et ils accumulent de l'argent... En nous disant à la fin de l'année, on ne peut pas augmenter les salaires, ou alors c'est la misère, hein, on ne peut pas embaucher les apprentis, on ne peut pas acheter du matériel pour faciliter vos conditions de travail. Enfin bon, il n'y a jamais d'argent pour les travailleurs. Hein, on est en droit de dire, où il part? Où mon travail part? Hein, en quelque sorte, les heures de travail qu'on passe dans les entreprises, c'est l'impôt en nature qu'on verse à la société, cet argent, on est en droit aussi de savoir à quoi il sert. Alors on a une petite idée, hein. Cet argent, bien sûr, il est aspiré à un pôle, puisqu'on voit que d'année après année, il y a plus de millionnaires, il y a plus de milliardaires, et ils sont encore plus riches. Voilà, donc le fait est qu'on est dans un système qui est une immense pompe aspirante des richesses à un pôle. Hein, et effectivement, c'est l'argent des salariés, c'est l'argent des salariés qui sont exploités, et puis c'est l'argent aussi de toutes les entreprises qui travaillent en dessous, hein, qui travaillent et qui travaillent pour ces grands groupes et qui eux aussi sont pillés, écrasés se trouvent aussi confrontés à ce rouleau compresseur là du grand capital. Donc le fait de revendiquer de contrôler les comptabilités de ces groupes, de contrôler leurs décisions, pour nous, c'est quelque chose de fondamental, et c'est sûr que ça inverserait le rapport de force, et ça permettrait aux travailleurs d'être en situation de force pour justement contester leur politique, pour leur dire c'est pas normal, cet argent c'est nous qui l'avons fait, à quoi il sert? Il sert à engraisser une minorité, il sert à spéculer, il sert à payer pour des voilà, une minorité. Bon, on pourrait contester, et nous ce qu'on espère, c'est que les travailleurs, s'ils se battaient avec cet objectif là pour ça, eh bien on espère qu'ils accèdent, on espère que très vite la conscience viendrait que finalement c'est aux travailleurs de prendre les choses en main. C'est aux travailleurs, y compris, de faire fonctionner toutes ces grandes entreprises et de décider, eux, et pas à une minorité, pas à une poignée parce qu'elle a apporté les capitaux. C'est-à-dire qu'on espère que cette conscience, que finalement, cette poignée de capitalistes qui dominent, eh bien, ils doivent être expropriés et on doit les remplacer. Les remplacer au pouvoir, les remplacer au pouvoir des entreprises et au pouvoir politique. De dire, bon, bah, finalement, on fait tout tourner dans cette société et les travailleurs, ensemble, collectivement, ils la dirigeraient mille fois mieux, cette société. Et je pense que cette perspective-là, ça fait partie des choses qu'on veut défendre dans cette campagne, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux à réaliser que cette société, elle nous amène à la catastrophe. À la catastrophe sur un plan économique, parce qu'en réalité, c'est la crise, et on s'y enfonce. Et un des révélateurs, enfin, un aspect de ce qui montre que vraiment, dans une crise profonde, c'est toutes ces entreprises-là qui ferment et qui ne trouvent pas de repreneurs. C'est-à-dire que les capitalistes qui ont plein de pognon à placer, et qui doivent le placer, parce que eux, avoir du pognon et pas le placer, ça les rend malades, hein, il faut que cet argent, il rapporte. Donc, ils veulent le placer. Mais ne pas le placer, ils peuvent, ça ne les intéresse même plus d'investir dans des usines comme Ascoval ou comme Ford. Ça ne les intéresse plus parce qu'en fait, les profits, ils ne sont pas garantis. Ils ne sont pas garantis parce que c'est la guerre commerciale, parce que les marchés sont saturés, parce que ce ne sera pas si simple de tirer leur épingle du jeu, et parce que les profits ne sont pas assez rapides. Ils ne sont pas assez rapides. Alors, on est dans une société où ces fameux investisseurs, eh ben, on ne les voit jamais. Hein, on ne les voit jamais, et il n'y a pas de développement de la production. Et il n'y a pas ce développement parce que, précisément, le capitalisme est arrivé à ses limites, hein, avec des marchés qui sont saturés, avec donc une concurrence féroce, où quand on veut effectivement s'en sortir, il faut être encore plus féroce que le concurrent. Hein? Alors au final, tout cet argent qui s'accumule dans les poches d'une minorité, hein, et je parle, là quand je parle d'une minorité, j'ai cru comprendre là qu'il y avait un nouveau classement des plus riches du monde qui était sorti, hein, Forbes, il paraît que Bernard Arnault, sa fortune, elle a augmenté encore de 13 milliards l'année dernière, donc il doit être autour de 75 milliards. Il a 75 milliards de patrimoine. On a un individu qui possède autant que le budget de certains États du monde. C'est ça la réalité. Hein. Eh bien, cet argent-là, il faut bien imaginer qu'il faut qu'il le place, encore une fois, il faut qu'il trouve de quoi le faire fructifier. Et dans la sphère productive, ben, je vous ai dit que c'était bouché, hein, ça les intéressait plus tant que ça. Hein, ça les intéresse que quand les profits sont garantis, encore une fois. Alors où est-ce qu'ils peuvent les placer? Ben, ils peuvent les placer dans le seul secteur qui a des débouchés, alors là, illimités, où il y a des produits qui sont inventés tous les jours, c'est le secteur financier. C'est le secteur financier, et c'est vrai que cette finance, elle aspire des dizaines, des centaines de milliards de capitaux, et elle développe ce qu'on connaît, hein, ces bulles spéculatives qui se déplacent d'un secteur à l'autre et qui menacent à tout moment d'exploser. Et aujourd'hui, la charge explosive, elle est encore plus importante que celle de 2008, celle d'avant la crise, celle d'avant le crack de 2008. Et c'est ça, notre société aujourd'hui. Et c'est pas seulement des révolutionnaires qui le dénoncent, ça. Tous les experts, y compris financiers, tous les experts de la bourgeoisie, tous ceux qui défendent ce système le disent. Le disent, il y a un moment donné, ça ne pourra pas tenir, il y a un moment donné, ça va péter, à nouveau. Voilà. Alors, voilà leur perspective. Hein. Donc, oui, on sait que ce système-là, il va nous péter à la figure. Et ça, c'est sur le plan économique. Mais regardez sur le plan humain. Sur le plan humain, le désastre que c'est, cette société et ce système. Hein. C'est la guerre de tous contre tous. Et même dans les pays riches. Hein, et ça se traduit avec cette attitude par rapport aux migrants, c'est-à-dire par rapport à des gens qui n'arrivent pas à vivre hein, là où ils sont nés, hein, à se conduire comme des criminels. Hein, la Méditerranée, elle s'est transformée en cimetière. Hein, en 5 ans, il y a eu quand même 12 000 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée, en se noyant dans la Méditerranée. Et ils veulent nous rendre complices de ça. Ils veulent nous rendre complices de cette société qui est devenue de plus en plus barbare. Avec ce système-là. Ce système où finalement, il n'y a que ceux qui ont du pognon qui ont le droit de vivre. Ah, ceux qui ont de l'argent, il n'y a pas de problème, ils ont pu fuir la Syrie. Comme ils peuvent s'acheter des passeports. En Europe, ça se vend. Chypre, ils vendent leurs passeports. Vous avez quelques millions, vous pouvez acheter un passeport européen, devenir européen. Mais les pauvres, eh ben, les pauvres, ils ne peuvent rien faire d'autre que de monter sur un rafio, essayer de sauver leur vie, sauver la vie de leur famille. Alors, voilà aussi cette société, cette impasse. Hein. Et puis, je voulais aussi aborder le problème de l'écologie. Bien sûr qu'on court aussi à la catastrophe sur le terrain de l'environnement et de l'écologie. Bien sûr, c'est une évidence. Pas du tout les seuls à le dire. Tout le monde le dit. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que c'est sûrement pas un problème individuel. Et il ne s'agit pas seulement de faire la morale aux gens pour dire il faut arrêter, il ne faut pas faire couler l'eau quand on se brosse les dents ou ramasser sa crotte de chien. Hein. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on va enrayer cette catastrophe. La réalité, c'est que c'est un problème collectif. Qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, comment on organise tout ça, comment on transporte, où on produit. C'est toutes ces décisions, quelle énergie on utilise. Ce sont des décisions collectives. C'est un problème collectif qui se pose à nous. Et tant que ces décisions-là, elles seront monopolisées par la minorité qui tient les capitaux, qui détient les capitaux et qui est à la tête de ces grands groupes industriels et financiers, la réalité, c'est qu'on pourra... On ne pourra rien faire. On sera complètement démunis et impuissants. On peut avoir un tas de bonnes idées. Et il y en a, alors là, il y en a, en veux-tu, en voilà des bonnes idées. Mais tant que c'est eux qui décident, on peut être sûr d'une chose. C'est que ce n'est pas ces critères-là qui vont s'imposer. C'est la loi du profit. C'est la loi du profit. C'est, j'aime bien le dire parce que je trouve que ça résume tout, mais ils ont une ligne de conduite, ces grands groupes. C'est après moi le déluge. Voilà, je fais mon fric et après moi le début. Ils s'en moquent. Ils se moquent des conséquences sur les travailleurs. Ils se moquent des conséquences, je pense à l'amiante, puisque c'est revenu sur eux aussi. Hein, mais ils ont empoisonné leurs propres travailleurs pendant des décennies. Donc ils se moquent des travailleurs. Ils se moquent des conséquences, le fait de tuer à petit feu la planète Terre. Voilà, ils sont aveuglés par leur profit. C'est ça la réalité. Alors pour toutes ces raisons, nous on pense qu'effectivement on est dans un système qui est condamné. Et si on a une politique qui s'adresse aux travailleurs, si on milite pour donner un programme pour les luttes des travailleurs et une conscience de classe, la conscience que les travailleurs ils peuvent prendre la société en main, c'est parce que justement on est convaincu que ceux qui détiennent la clé, c'est ceux qui travaillent dans ces grands groupes, ceux qui travaillent au cœur de ces citadelles capitalistes, au cœur de ces grandes entreprises, parce que eux, ils ont un levier qui est incomparable pour peser, pour peser sur cette classe sociale. On pourra en rediscuter, mais vous voyez, occuper les ronds-points, manifester le samedi, ça fait pression sur Macron, d'accord, d'autant plus quand il y a le feu aux Champs-Élysées. Hein, là, on sent que ça l'embête. Bon, mais regardez, ça a assez peu gêné les capitalistes. Hein. Ça a assez peu gêné les capitalistes et ça les empêche pas de continuer leur politique, leur offensive contre le monde du travail. La réalité, c'est que la situation, elle se débloquera si effectivement les travailleurs, ils se lèvent à nouveau pour leurs intérêts, s'ils revendiquent leur droit de vivre dignement. Voilà, de les vivre dignement et de contrôler les richesses qu'ils contribuent à fabriquer. Voilà. Donc ça, c'est notre perspective. Alors on sait très bien que les travailleurs, ils ne sont pas spécialement révolutionnaires, que quand il n'y a pas de lutte collective, c'est chacun pour soi, c'est le carriérisme, c'est l'individualisme, qui y compris répercute... les pires aspects de la politique patronale, les divisions, etc., on le sait, on le vit, on est des travailleurs, on est des salariés, on sait que c'est comme ça que ça se passe. Mais en même temps, ce qu'on sait aussi, c'est quand les travailleurs ils décident de se lever et de se battre ensemble, eh bien justement, ils ont entre les mains la possibilité d'inverser tout ça. Et c'est la raison pour laquelle on mène notre politique en direction de des exploités, des salariés, et en espérant aussi que beaucoup d'artisans, de commerçants, d'indépendants, se sentiront faire partie de cette classe des producteurs, et d'avoir effectivement à se battre contre justement ce grand capital qui bloque aujourd'hui toute la société.